Je vous propose que nous fassions parler les quatre intervenants à la suite, après quoi il y aura un commentaire qui sera fait par la discutante et après cela une discussion rapide avec la salle en fonction du temps qui nous restera. C'est pour ça que je vais demander à chaque intervenant de ne surtout pas dépasser 20 minutes. Sachant que si d'aventure ils avaient l'intention de dépasser les 20 minutes, et bien de toute façon ils ne pourraient pas parce que je mettrais un terme à leur discours de façon très autoritaire, j'en suis désolée. S'ils peuvent le faire en moins de temps, ce sera encore mieux. Et comme ça, on va essayer de pas tout de suite donner la parole à la première intervenante qui est Michela Villani, qui va nous parler de la sexualité des femmes excisées inscrites dans un parcours de réparation. Forme et sens attribués au plaisir sexuel. Michela Villani est de l'Université de Fribourg, en Suisse. Et il suffit d'appuyer.
Donc, je vais vous parler de la sexualité des femmes excisées dans un contexte globalisé, à la fois culturellement et politiquement. Et en particulier, je m'arrêterai sur la dimension interculturelle du plaisir des femmes excisées en démarche de réparation en France. Ma présentation d'aujourd'hui se base principalement sur une enquête menée entre 2007 et 2009 en France, dont je vais rapidement vous présenter le design. Et je vous propose aussi de revenir très rapidement aussi, à cause des contraintes matérielles du temps à disposition, sur les dernières recherches concernant le plaisir sexuel féminin et la sexualité féminine. Donc, pour présenter justement très très rapidement l'enquête qui a été faite et du coup aussi les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit justement d'une étude dans le cadre d'une recherche doctorale le terrain a été effectué dans deux hôpitaux publics dans la région parisienne. Et donc, j'avais mobilisé un pluralisme méthodologique qui comprenait l'analyse d'un traitement statistique des dossiers médicaux. Pardon. Et une observation ethnographique pendant 18 mois au sein des deux équipes médicales. Et des entretiens approfondis avec les femmes excisées qui étaient en démarche, qui avaient formulé une demande de réparation clitoridienne. Aujourd'hui, en particulier, je m'appuierai surtout sur ces dernières données, c'est-à-dire les entretiens approfondis, et je vais vous présenter quelques extraits d'entretiens justement défendre mon propos. Donc, je vous propose de revenir sur des définitions des termes mobilisés pendant ce colloque, et notamment, j'aimerais revenir sur la définition médicale de la sexualité. Et pour ce faire, je mobilise un document qui a été produit, élaboré par l'OMS en 2010 et qui se veut une sorte de guide conceptuel pour mesurer la santé sexuelle. La sexualité est considérée comme un aspect central dans la vie de l'être humain, donc qui implique plusieurs dimensions, je cite, sexe, genre, identité, rôle, orientation sexuelle, érotisme, plaisir, intimité et reproduction. La sexualité est expérimentée et est exprimée dans les pensées, les désirs, les croyances, les attitudes, les valeurs, les comportements, les rôles et les relations. La sexualité est influencée par l'interaction de plusieurs facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, politiques, culturels, éthiques, légaux, historiques, religieux et spirituels. En plus de ces documents, distingue la notion de santé sexuelle qui témoignerait non seulement une absence de maladie ou dysfonction, mais l'idée même de confort et de bien-être physique, émotionnel, mental et social, dès la notion de droit sexuel, laquelle ferait plutôt référence à un contexte permettant de vivre une telle sexualité, c'est-à-dire dans le bien-être et la liberté d'expression. On voit déjà que même s'il s'agit d'une définition produite par un organisme médical, La sexualité, elle est déjà complexe telle qu'elle est définie par la médecine. Et on voit la pluridisciplinarité apparaître justement puisqu'elle englobe plusieurs sphères. J'aimerais maintenant faire une considération plutôt sociologique, donc un bon sociologue, et montrer, donc en m'appuyant sur les considérations qui sont faites par d'autres sociologues, et je pense notamment à Michel Bozon qui est spécialiste là-dessus, montrer comment nous sommes dans une ère de la médicalisation de la sexualité, ce qui consiste concrètement à appréhender les problèmes du sujet et de son engagement dans la sexualité non tant comme des faits moraux, mais plutôt comme une question de bien-être individuel et social. Et on l'a vu, la notion de santé sexuelle rend bien compte justement de cet aspect. Donc, si nous avons l'impression que les mœurs sexuelles ou la moralité ou morale sexuelle se seraient affaiblies en faveur d'une majeure libération sexuelle, ce sont plutôt les formes de contrôle qui ont changé. Elles sont intériorisées et en faveur d'une maîtrise de soi. Donc, ce qu'en anglais, on appelle « embodiment ». Donc, il y aurait aussi des nouvelles normes sexuelles qui apparaissent ou aussi on peut parler de contraintes sexuelles. Et en particulier, aujourd'hui, nous assistons aux normes sexuelles qui seraient celles de la responsabilité et de l'autonomie. Donc, pour revenir aussi, comme en introduction, j'avais énoncé cette idée de globalisation, on assiste aussi à une multiplication des normes et aussi une pluralisation de modèles. L'individu, donc, est censé, finalement, ça revient à l'individu, de faire ce travail d'établir une cohérence de ses expériences intimes. Ces considérations générales sont valables aussi pour les femmes excisées qui ne constituent pas une espèce à part. Elles sont insérées dans une société qui assiste à toutes ces modifications. La demande d'avoir du plaisir, de pouvoir jouir ou bénéficier d'un corps apte au plaisir, donc l'idée de performance, est aussi esthétiquement, un corps esthétiquement normal, donc une normalité concernant l'apparence, sont au centre de la demande de réparation. Voilà, je vais justement revenir sur cette idée des nouvelles contraintes de la sexualité féminine en les situant dans l'expérience des femmes excisées et en particulier en citant des extraits d'entretien donc, par leurs propres paroles telles qu'elles sont exprimées par les femmes. Donc, justement, elles disent « Si on veut découvrir le plaisir, il faut se faire plaisir soi-même. » on voit aussi une autre dit « J'ai l'impression de ne pas faire assez pour que lui aussi, donc son partenaire, puisse avoir son plaisir. C'est pour ça que je me sens coupable. » une autre femme dit « C'est bien de cela qu'il s'agit, devenir maîtresse de ma sexualité et quitter la passivité facile qu'impliquait ma sexualité avant l'opération. » Donc là, il s'agit en particulier des trois femmes de deuxième génération, mais on verra plus tard que les femmes migrantes, elles ont, j'ai des extraits aussi de femmes de première génération. Donc, c'est pour dire que les nouvelles normes de la sexualité féminine sont celles d'avoir une sexualité indépendante, autonome, responsable et active. Le plaisir, il faut en avoir, mais aussi en donner. L'idée qu'il y a un travail à faire met en lumière cet engagement sexuel dans le couple. Les femmes aujourd'hui ne peuvent plus se contenter d'être les partenaires passives ou simples spectatrices d'un plaisir masculin. La sexualité normale, telle qu'elle est considérée, donc, fonctionnerait notamment si elle est relationnelle et réciproque. Je vais aussi revenir sur les récentes découvertes, en fait, juste en piqûre de rappel, parce que je pense que vous connaissez finalement les articles, en fait, qui sont vraiment pas, s'il ne s'agit pas d'une littérature exhaustive, mais que j'en cite quelques-uns. Et il faut rappeler donc que le clitoris doit être considéré comme un organe contemporain. La mise à jour de son anatomie est toute récente. Elle remonte aux années 98 et 2005, en tout cas si on se base aux publications, bien évidemment les recherches étaient antécédentes. Et ces publications, ces recherches ont été menées principalement par une urologue australienne, Helen O'Connell, et son équipe, qui ont permis de mettre à jour justement l'anatomie du clitoris, montrer qu'il mesure entre 6 et 8 cm, mais surtout que c'est un organe complexe qui a un rapport actif avec l'urètre dans les rapports sexuels aussi. À partir de ces découvertes, d'autres chercheurs se sont investis dans l'étude anatomique du clitoris et notamment mobilisant quelque chose qui fait partie aussi de notre ère contemporaine, des technologies nouvelles qui permettent notamment d'utiliser les images. Donc je pense les techniques de l'IRM, aussi la sonographie, etc. À l'intérieur de la communauté scientifique médicale, la représentation du sexe féminin change. Ce qui est important aussi de dire, c'est que ces recherches ne laissent pas indifférentes les femmes, et notamment à travers une diffusion de ces savoirs savants. Donc à la base, ces publications, comme on l'a vu, sont plutôt, s'adressent plutôt à une niche médical, mais finalement, et c'est là qu'on voit une vulgarisation, une diffusion qui rejoint un grand public et notamment qui est menée par au départ des féministes qui donc ont une posture engagée dans l'intérêt de diffuser ces savoirs. Et par la suite, donc, ces savoirs vulgarisés, accessibles à un grand public, changent aussi la représentation de la sexualité que toutes les femmes, plus ou moins politisées, se font de leur sexe, de leur clitoris. Ici, j'ai justement montré cette image parce qu'elle change complètement la représentation visuelle, mais aussi le symbolique qui est derrière cet organe qui se montre beaucoup plus puissant de ce qu'il était considéré avant. Donc juste un petit bout, que c'est la partie externe la plus visible. Donc le clitoris devient notamment le symbole d'une sexualité achevée, indépendante, assumée, autonome, affranchie, réalisée. Les femmes excisées vivant en France aspirent aux mêmes idéaux que les autres femmes, donc non excisées vivant en France. Et en tout cas, ceci est le cas pour celles qui font la demande de réparation clitoridienne. Elles veulent être égales, enfin, elles veulent appartenir à la population majoritaire, et ces demandes d'égalité citoyenne s'expriment par une citoyenneté sexuelle. Donc allons voir comment, très rapidement. Les femmes excisées, donc migrantes et filles des migrants, vivant en France, expriment justement ce désir de s'intégrer. Et cette intégration passe par une assimilation sexuelle et cette aspiration à correspondre à un modèle qui est le modèle dominant. Et comment ? Et bien, à travers la confrontation donc, qui se fait à la fois pour les migrantes et les filles des migrants de manière plus plus fortes, puisqu'elles ont été entièrement socialisées en France et scolarisées. Et donc, concrètement, elles ont des amis, des copines qui sont nées ici et qui n'ont pas été excisées. Voilà. Et donc, à travers aussi les discussions qu'elles peuvent avoir entre copines sur la sexualité, les expériences, il y a une confrontation donc, très concrète, et notamment à l'âge de l'entrée dans la sexualité. Aussi, dans les couples, donc notamment les couples biculturels, biculturaux, enfin en tout cas les couples mixtes, où un partenaire, le partenaire ne serait pas issu d'un pays où l'excision est pratiquée. Il y aurait donc un sentiment de handicap qui émerge, en tout cas des limitations fortes qui sont exprimées par les femmes, et notamment... ils disent voilà, Sakina, 26 ans, fille des migrants. Bon, les prénoms, bien évidemment, ils sont pas les vrais. C'est normal que je n'arrive pas à être à l'aise avec un homme parce que déjà, je ne suis pas à l'aise dans mon corps. Je n'arrive pas à le manipuler. Samia, 25 ans aussi, fille des migrants, elle dit je n'ai jamais essayé la masturbation parce que j'ai un peu honte. Et puis, une autre femme, fille des migrants aussi, elle dit « Ma cousine m'a dit se sentir inférieure, moins femme que les autres. C'est un sentiment que j'éprouve aussi. Je me sens en féminité immature, grossière, primitive et maladroite par rapport aux autres femmes. Depuis le milieu de ma vingtaine, j'éprouve une sorte de complexe à ne pas être féminine. » Cette stigmatisation, aussi discrimination réelle, donc vécue, elle peut avoir lieu dans ce cas, pas tant entre copines, mais plutôt avec des partenaires qui ne prennent pas toujours le tact de faire des commentaires, et donc, comme il le montre, fille migrante, elle dit mon partenaire me l'a dit mais t'as pas le clitoris, l'ancien me l'avait dit aussi et le nouveau me l'a dit aussi, il m'a dit t'es pas comme toutes les femmes que j'ai connues. Une autre donc aussi Ina, 32 ans, migrante, elle dit je sors avec des Africains, eux ils ont la conscience de l'excision. J'ai un blocage avec les hommes. Par exemple, je ne peux pas sortir avec quelqu'un que je viens de rencontrer. Je préfère retourner voir mon ex. Ça me générait parce que je voudrais pas qu'on voie que je n'ai pas le clitoris et qu'on me dit que je suis frigide ou que je n'arrive pas à avoir du plaisir parce que je n'ai pas le clitoris. Donc, il y a aussi une limitation dans la restriction du réseau sexuel. On le limite finalement, soit à des partenaires qu'on a déjà connus, soit des partenaires issus des pays où on pratique l'excision. Et c'est vécu comme une limitation, pas comme un choix. Un autre extrait, une fois il m'a dit de toute façon ça m'a beaucoup blessée, je me souviendrai toute ma vie parce qu'il m'a dit quelque chose de très fort en disant de toute façon tu n'es pas une femme. Donc Nafi, migrante, 20 ans. Donc il s'exprime par là une demande d'égalité dans la sexualité qui donc s'exprime à travers ces mots. Avoir un vagin normal comme tout le monde, avoir un sexe comme les autres dans la norme, avoir un clitoris comme toutes les femmes. Dans ma tête, ce que je voulais, c'était d'être comme les autres, c'était surtout ça, de pouvoir me dire que j'ai aussi un clitoris, que je ne suis plus excisée. Avoir une vie sexuelle normale. Voilà, ça, c'est les femmes qui s'expriment. Donc là, on voit qu'est-ce qui change finalement après la chirurgie ou un parcours de réparation, ce que j'appelle parcours de réparation long, c'est-à-dire cet accompagnement qui est offert et pluridisciplinaire qui est offert dans les hôpitaux et puis qui est devenu un protocole, même si il est après plus ou moins adapté dans les différents services, si j'ai bien compris. Mais finalement, et sur ça j'aimerais juste faire un point, il y a des données qui existent, c'est-à-dire j'ai fait une analyse longitudinale en analysant justement les dossiers médicaux et notamment l'accompagnement sexologique, aussi psychologique, et elles vont être publiées bientôt. Donc, qui est intéressé, je vous enverrai l'article. Là, voilà, il y a d'autres extraits, mais je vais terminer. Mais juste pour dire, on sent qu'il y a des changements, on se laisse aller pour beaucoup plus de choses, dans des délires, des trucs qu'on ne faisait pas avant. On se dit que le clitoris, enfin, qu'il y a ça, le clitoris, qui est là, et on vit plus. Je suis plus libérée dans la tête, je me sens comme toutes les femmes, je me sens à l'aise quand je fais l'amour. C'est la confiance en moi, dit une autre femme. Et voilà, donc il y a cette idée de changement positif. Donc je terminerai là-dessus et je dirais que dans ce contexte donc de migration, de globalisation, de circulation de savoir et de représentation, des normes, d'assimilation et de désir d'intégration, je mobiliserai comme ça, peut-être dans la discussion, cette idée de processus interculturel qui rend bien compte de l'idée de dynamique dans la construction du plaisir. Donc, s'il est vrai que dans la sexualité, il y a une dimension culturelle, si on veut reprendre les termes de John Gagne, donc plus sociologique, des scripts sexuels, il y a aussi d'autres scripts qui sont en jeu, et notamment des scripts intrapsychiques, c'est-à-dire la capacité de reconnaître une situation sexuelle et donner sens et réélaborer l'expérience sexuelle, et des scripts interpersonnels.